L'encadrement et le niveau de responsabilité dans le monde agroalimentaire chez nous sont de haut niveau. Trop de gens ne connaissent pas les innombrables règles, protocoles et contraintes de toutes sortes auxquelles l'industrie alimentaire doit se plier. On ne lésine pas sur la salubrité et l'innocuité des aliments. En temps normal, bien sûr, des entreprises se plaignent de la lourdeur de toutes ces mesures. Mais lorsque survient une crise, à petite ou plus grande échelle, comme celle du COVID-19, on admet que vaut mieux être très prudent. La très, très grande majorité des entreprises se plie à toutes ces règles. Elles en sont d'ailleurs de grandes bénéficiaires, puisque les consommateurs ont confiance en leurs produits. Ce qu'implique la production d'aliments de qualité et sans danger est invisible aux yeux de tellement de consommateurs. Les seuils de tolérance sont stricts pour ce qui est de la présence de bactéries ou de pathogènes pour les produits qui sortent de la ferme. La manutention, l'entreposage et le transport suivent des protocoles bien établis. Des inspecteurs vérifient les conditions d'opération à ces différentes étapes. En usine, le niveau des vérifications et contrôles augmente. La chaîne de froid doit être respectée. Des échantillons sont prélevés et analysés. Les températures sont vérifiées pour les cuissons tout particulièrement. Les chaînes sont conçues pour éviter toute contamination croisée. N'entre pas qui veut ni quand il veut dans les zones de production. La désinfection préventive est systématique. Aussi, on vérifie l'état de santé des employés. Les personnes inspectant les milieux de travail de l'agroalimentaire et vérifiant les protocoles, les procédures et les équipements ou analysant les produits finis ont des formations souvent très pointues et mises à jour régulièrement. Ces travailleurs de l'ombre, si je peux me permettre d'ainsi les qualifier, sont essentiels. Bon nombre d'entre eux, des centaines en fait, sont regroupés au sein de l'AQIA, l'Association québécoise pour l'innocuité alimentaire. Et on ne parle pas souvent de ces gens, qui sont aussi discrets, il faut bien le dire. Je pourrais encore davantage parler de l'importance de la qualité et de l'innocuité des aliments, mais j'aborderai plutôt maintenant les facteurs négatifs, les facteurs de danger qui peuvent détruire rapidement des efforts pourtant énormes pour assurer que des aliments soient bons, de grande qualité et sans danger. Et je crois qu'en cette période de crise majeure provoquée par la pandémie du virus COVID-19, il faut redoubler de vigilance pour éviter qu'un geste anodin ou inconscient ou encore une négligence pure et simple ne vienne briser la chaîne alimentaire. Je l'ai dit dès le début, si nous ne pouvons assurer un approvisionnement alimentaire adéquat à la population, comment pourrons-nous lutter contre le COVID-19 et le vaincre? Notre société est déjà déstabilisée, fragilisée au plan économique et fait face à un stress élevé quant aux événements à venir. Loin de moi l'idée d'être alarmiste. Je veux simplement être réaliste et en appeler à une prudence plus consciente, je dirais. Encore une fois, il suffit qu'un maillon se brise pour que les choses deviennent compliquées et dangereuses. J'ai parlé de la production et de la transformation, mais il y a la distribution et la vente au détail, nos rapports avec les détaillants alimentaires. Bien sûr, dans les épiceries, et on a pu le constater depuis une dizaine de jours, l'atmosphère a bien changé. L'expérience client n'est plus la même. En général, on est moins tatillon sur le choix de nos aliments. Des mesures de prévention ont été prises par les commerçants. Les comptoirs de vrac ont disparu en plusieurs endroits. On ne fait plus de découpe de charcuterie à l'air libre, si je peux m'exprimer ainsi. L'achat de certains produits est limité à deux. En fait, en gros, on ne manque de rien, mais le remplissage des étals et réfrigérateurs doit être plus fréquent. La part des repas pris dans des restaurants ayant diminué, les commerces de détail de l'alimentation sont plus sollicités. Et il faut que cet accès aux épiceries puisse se poursuivre tout au long de la crise. Il faut que ce maillon de la chaîne tienne le coup, sinon nous serons mal pris et encore fragilisés dans la lutte que nous devons mener collectivement au virus COVID-19. Mais attention, il ne tient pas seulement aux épiciers et à leur personnel d'assurer cette continuité. La responsabilité est collective. Par les temps qui courent, la visite à l'épicerie n'est pas anodine. Elle n'est pas festive, ni même conviviale. Nous allons à l'épicerie par nécessité. Et malgré ce que je viens de dire, il faut être conciliant, voire gentil et agréable avec les autres clients, tout en respectant les règles élémentaires, clairement édictées, par exemple en maintenant le plus possible une bonne distance entre nous. Et pourquoi pas se désinfecter les mains en entrant à l'épicerie? Dans certains commerces, on offre du gel alcoolisé à tous les clients. S'il n'y en a pas, utilisez la petite bouteille que vous avez dans la voiture ou dans la poche de votre veste. Conseil puéril, direz-vous. Peut-être. Mais je crois que nous avons tous vu ces derniers jours des gens qui ne semblent toujours pas conscients des mesures élémentaires pour éviter la contamination. On entend même des gens dire « Je n'ai pas peur du virus, ça ne me dérange pas ». Mais posons-nous la question, si malencontreusement, le virus était propagé par celles et ceux qui n'ont pas peur. Bon, évitons la morale, parlons de conscience et de réalité. Dans le monde agroalimentaire, l'application de règles strictes pour assurer la qualité et l'innocuité des aliments est chose courante. Bien sûr, par les temps qui courent, partout on fait des rappels au personnel et même on ajoute certaines précautions supplémentaires. Tout le monde devrait le faire d'ailleurs. Une vigilance accrue serait appropriée et on doit aussi insister auprès des employés pour qu'ils soient eux-mêmes personnellement très conscients du fait que leur absence éventuelle sur la ferme, dans un atelier de préparation alimentaire, à l'épicerie, voire dans le camionnage, conscients donc que leur absence risque de mettre en péril la chaîne alimentaire, l'approvisionnement alimentaire. Parmi les choses qu'on ne voit pas et qui étaient déjà en place, il y a en agriculture des équipes spécialisées de surveillance. On redoute, par exemple, l'arrivée dans nos élevages de la peste porcine africaine. Le niveau de biosécurité a donc été augmenté dans le secteur porcin et des agences gouvernementales comme l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont à l'affût. Il y a aussi depuis quelques années des équipes de surveillance et d'intervention contre la DEP, la diarrhée épidémique porcine. Ces maladies, tout comme la grippe aviaire que l'on surveille aussi, ne posent pas de risque pour les humains, mais pourraient avoir de dramatiques conséquences au plan économique. On parle ici de survie d'entreprises agricoles et d'ateliers de préparation de viande. Je parle de cela pour ajouter à l'importance d'assurer un très haut niveau de biosécurité sur les fermes et dans l'industrie en général. L'ennemi que représente le virus COVID-19 est différent. Les mesures habituelles ne suffisent pas. D'autant plus qu'il menace cette fois les humains et que l'activité d'agricultrices et agriculteurs sur leur propre ferme et la présence d'employés sont aussi nécessaires sur un grand nombre d'entreprises. Parlant d'employés, des gens ces jours-ci s'élèvent contre la venue chez nous de travailleurs étrangers temporaires. On craint que ces personnes puissent constituer un risque supplémentaire de contamination au virus. Depuis des décennies, ces travailleurs sont essentiels à plusieurs productions et à la transformation alimentaire, entre les mois d'avril et novembre en général. Au Québec, on en recevait une quinzaine de milliers en 2019. Au Canada, leur nombre atteint les 60 000. Et pourquoi a-t-on de plus en plus recours à ces gens du Mexique, du Guatemala ou d'ailleurs? Parce que les fermiers et les industriels ne réussissent pas à trouver de la main-d'œuvre locale. Avec la crise actuelle, le nombre de chômeurs augmente rapidement. Les entreprises veulent bien donner priorité à la main-d'œuvre locale, mais soudainement, accepterons-nous d'aller dans des champs, des maternités porcines, des abattoirs ou des conserveries? D'ailleurs, il y a 7 ans, 10 ans, 20 ans, lorsque le taux de chômage était élevé, on ne réussissait pas à trouver localement tous les travailleurs nécessaires. Est-ce que ce serait différent cette fois-ci? Donc, des milliers de travailleurs étrangers temporaires seront encore essentiels cette année. Assurément, il faut que les choses soient bien faites. Il faut là aussi resserrer les mesures sanitaires. Il faut respecter les consignes d'isolement à l'arrivée de ces travailleurs. Il faudra réaménager rapidement des installations et des lieux d'hébergement. Mais, encore une fois, si les choses sont bien faites, les risques ne sont pas plus élevés que lorsque de nos parents reviennent de voyage ou de séjour de quelques semaines dans le sud. En conclusion, les politiciens, nos gouvernements, autant à Québec qu'à Ottawa, sont conscients du rôle crucial du secteur agroalimentaire dans la période actuelle. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, vient d'ailleurs d'annoncer une aide spécifique de 5 milliards de dollars au monde de l'alimentation. Cela est bienvenu, mais encore une fois, il ne suffira pas d'encaisser quelques subventions. Elles aideront certes, mais dans la mesure où tous les artisans de l'agroalimentaire s'assureront de poursuivre leur travail, je dirais leur mission, de produire, préparer et distribuer les aliments. Faites ce qu'il faut pour rester en santé et que vos moyens de production continuent d'être opérationnels. Ici Lionel Levac, mes salutations solidaires.